Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Les notaires et leurs archives protégées.
Nous sommes des percepteurs un petit peu. Nous percevons énormément d'impôts, droits de mutation, droits de succession. Quelquefois nous sommes appelés à un moment difficile, quelques jours qui précèdent la mort. Il y a tout un respect de la personne. Il faut interroger, il faut comprendre quelle est la volonté, ne pas influencer, écouter et exprimer par écrit ce qui est la volonté, les dernières volontés de la personne.
Ce serait le second plus vieux métier du monde. Mais en France, il vit dans la hantise de sa disparition. Pour devenir notaire, il faut être en position d'acheter sa charge. C'est une étrange survivance de la vénalité des offices. Ensuite, il faut recevoir l'agrément d'une chambre départementale puis d'un conseil national. Une empreinte de l'ancien système des corporations. De Clémenceau à Sarkozy, du moins avant que celui-ci ne devienne président de l'UMP, la République a cherché à réformer le notariat. La loi Macron, qui va être discutée et rabotée au Parlement, prévoit ainsi une installation plus libre et une légère mise en concurrence des honoraires. Il s'inscrirait, selon les professionnels, entre un étage haut et un étage bas. Ce serait un corridor tarifaire. La profession, qui est constamment sur le qui-vive, s'est aussitôt mobilisée. Une manifestation a été organisée le 10 décembre. Et n'étaient les circonstances, il en était prévu une autre hier. Décidément, les historiens devraient s'intéresser davantage à cette profession en mouvement. D'autant qu'ils ont à l'égard des notaires une dette inextinguible. C'est grâce au dépôt des archives notariales dans les archives publiques qu'ils ont pu ouvrir d'innombrables perspectives de recherche.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Yann Potin, bonjour.
Bonjour.
Historien et archiviste paléographe. Vous avez consacré tout un article à cette fameuse déclaration du général de Gaulle dans la Manche. Ah, être archiviste.
Oui, il se trouve que le grand-père du général de Gaulle, Philippe Julien de Gaulle, était presque archiviste et en tout cas un grand amateur d'histoire. Et en fait, il y a une petite histoire biographique de Gaulle avec le patrimoine et pas simplement celui de la politique, de la grande politique.
Mais il faut choisir entre classer les papiers et construire la vie, n'est-ce pas, Yann Potin? Les archivistes, on va voir dans quelles conditions, se sont substitués pour la gestion d'une partie des archives notariales aux notaires et à leurs tabellions, les clercs de notaires. Mais revenons sur les fonctions du notaire. Dans l'Antiquité, c'est un secrétaire.
Tout à fait.
Et au Moyen-Âge. Alors, vous avez fait votre thèse de l'École des Chartes sur le trésor des chartes royales.
En fait, on peut même dire que le notariat est l'héritier des scribes, hein, ces scribes qu'on voit au musée du Louvre, de l'Antiquité pharaonique, et qui, au Moyen-Âge, sont devenus en fait les rouages essentiels de la transformation de la société rurale, et puis plus globalement de la société, en une société écrite, c'est-à-dire où la preuve écrite avait tendance à réguler les rapports sociaux et à commencer par les successions. Successions qui, effectivement, dans les transactions patrimoniales, sont essentielles. Donc le notaire, en fait, est un personnage dans l'arrière-plan ou dans le décor, si peut-on dire, d'une modernisation de la société par, tout simplement, l'écrit comme usage obligatoire et comme preuve indispensable.
On parlait du Moyen-Âge, du rôle important moteur des chartes royales et des notaires de la cour. Ici, on est un peu plus tard, dans la région de Foix et dans le film Martin Guerre. Les notaires se sont répandus, démultipliés, ne dépendent plus seulement du roi et sont les symétriques dans la rédaction des actes importants des prêtres.
Cela commença par un dimanche d'août, en 1542, au village d'Artigat, dans le comté de Foix, sous le règne de François Ier.
Nous accueillons Bertrand de Rolls et Martin Guerre.
In nomine Patris.
Et fili.
Et fili.
Et spiritus sancti.
Et spiritus sancti. Je, Martin, donne mon corps à toi, Bertrand, en loyal mari.
Je le reçois. Je, Bertrand, donne mon corps à toi, Martin.
Je le reçois.
Et moi, je vous unis en mariage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et Bertrand de Rolls, comme vos parents l'ont décidé, apporte en dot 30 arpents de blé, 40 arpents de millet au lieu dit la pomarède, une paire de bœufs de labour et les bois de Roussas, qu'elle tient de son père, Laurent de Rolls, décédé. 3 robes rouges, 1 lit et 2 coussins de plumes, 1 coffre fermant à clé, c'est tout.
Ce petit notaire de campagne dans le film de Daniel Vigne, il y a fort à parier qu'il ait acheté son office, parce que fin 15e, début 16e, l'époque de ce film 1542, un changement important se produit.
Un changement très important, puisqu'en effet, au départ, les notaires ne sont que sont des agents royaux et ils sont en petit nombre. Effectivement, c'est une prérogative, entre parenthèses, que le roi de France, notamment, prétend détenir de sa parenté avec l'empereur, puisqu'au départ, dans le droit romain, il n'y a que l'empereur qui peut avoir des notaires publics, l'empereur et le pape aussi. Donc en fait, ces notaires, au départ, sont de petits groupes qui travaillent pour le roi, mais aussi pour les particuliers. Et puis, avec l'explosion de ce besoin de l'écrit, le roi va se mettre à vendre en quelque sorte les charges de notaire. Entre parenthèses, au moment où on entend dans l'extrait de Martin Guerre du latin, en fait, c'est tout à fait curieux. C'est le moment où l'édit de Villers-Cotterêts, en 1539, oblige les notaires à rédiger les actes en français. Donc on est dans une généralisation, une démocratisation, entre guillemets, de l'acte écrit qui va désormais gouverner complètement tous les rapports sociaux.
Oui, mais le latin, il va survivre dans le vocabulaire des notaires. Quand on entend dans un échange avec un notaire « Decuius », eh ben, on sait que le notaire, il veut désigner l'autre.
Il veut désigner les parties. Et effectivement, le latin va survivre à travers au moins le formulaire. Même si on va traduire un certain nombre de termes, les formules, et elles sont encore tout à fait présentes dans le quotidien universel de toute personne qui a affaire à un notaire, ce sont ces formules extrêmement archaïques en apparence, mais qui ont seule valeur de droit.
1803, la loi constitutive du notariat, la vénalité des offices a été supprimée par la Révolution, mais on est quand même surpris de voir, une fois la Révolution accomplie, certaines professions, et d'abord celle-ci, conservées, leurs privilèges, leur fonctionnement corporatif.
C'est finalement la grande conquête des notaires silencieuses, par-delà la Révolution, qui fait qu'ils ont réussi, ils sont parvenus véritablement à maintenir cette vénalité qui remontait, qui avait été officialisée en 1601 par Henri IV, pour toutes les charges publiques, et la seule qui finalement est subsistée, grâce à cette loi de 1803, qui est une loi en fait d'exception, mais qui d'ailleurs s'inscrit dans un contexte qui est quand même celui de Bonaparte, donc d'un mariage, d'un alliage entre Ancien Régime et Révolution sur le plan du droit. Et au fond, c'est cette loi qui va déterminer, qui détermine encore aujourd'hui le tissu notarial, avec parfois des concurrences et puis une stabilisation sous forme de grandes études, puisque c'est le mot-clé où vont se déposer les actes et la mémoire patrimoniale des familles.
On dit que jusque dans les années 1960, aux enterrements du moins, les notaires de Paris portaient un costume qui ressemblait étrangement à celui des députés du tiers-État en 1789. Alors on parle permanence, on parle survivance. Enfin, il faut dire quand même que la représentation des notaires au XIXe siècle n'était pas très favorable. Qu'on pense à Balzac, qu'on pense à Daumier, qu'il a fallu une reconstruction a posteriori de l'image de la profession pour qu'elle paraisse davantage compétente et honnête qu'elle ne le semblait aux contemporains de Balzac et de Daumier.
Oui, parce que en fait, les notaires surfent, pourrait-on dire, sur la vague des biens nationaux et de cette énorme redistribution de terres que la Révolution a commandée et qui commande la formation de cette classe moyenne rurale, qui forme là aussi l'assise de la société française au XIXe siècle. Et précisément, la loi de 1803 avait permis, comme un peu celle d'aujourd'hui, une certaine concurrence. Et en fait, en fonction des lieux, les notaires se faisaient concurrence au niveau des tarifs. Donc il y avait véritablement une sorte de maquignonnage de l'acte. Surtout que ces actes, bon, il y a des actes de mariage, des actes de vente, mais c'est vrai, et le premier document qu'on a entendu l'évoquer, c'est quand même le rituel de la mort qui commande le moment essentiel où le notaire a une sorte, évidemment, de toute puissance, puisqu'il est celui qui règle le passage des biens entre les vivants au-delà des morts.
Oui, mais la mort, Yann Potin, si on reprend le langage des notaires, laisse des espérances.
Vous avez fait part lors de notre dernière entrevue du codicille suspensionné par votre maman.
Non, pourquoi, il y a quelque chose en plus ?
C'est-à-dire que, suivant ce codicille, n'est-ce pas, la donatrice stipule expressément qu'à partir d'un délai de 2 ans après son décès, si les parties héritières et utérines ne s'étaient pas manifestées, la somme était acquise par l'État du Texas pour la création d'un orphelinat. Or, votre brave maman nous a quittés il y a 2 ans et 2 jours. En revanche, en ce qui concerne la deuxième acquisition, pas de problème, elle est bien à vous. Il s'agit d'un joli support discographique enregistré par votre maman, sur lequel vous n'aurez pas à payer de droits de succession, c'est toujours ça de gagné. J'ajouterai que, concernant mes honoraires, frais notariés plus frais d'agence généalogique compris, la somme ne s'élève qu'à 13 250 francs. Les arrondissants, 13 000, non, pas chipoté, voilà, vous signez là.
Excusez-moi, est-ce que j'ai pas compris, les 13 000, c'est tout ce qu'on touche ?
Non, ce sont les émoluments compensatoires.
Excusez-moi, parce que l'héritage, il est où ? Les sans-patates ?
Les sans-patates.
L'héritage.
Je vous ai dit, suivant le codicille suspensionné par votre maman...
Excusez-moi, vous pouvez vous expliquer clairement, parce que je comprends pas.
Ah non, je comprends pas non plus le codicille.
Eh bien, il y a 2 jours,
oui.
L'héritage
oui.
était encore à vous.
Oui.
Et aujourd'hui,
oui.
il se trouve que l'usufruit de votre quote-part entière indivisé...
C'est ce que je comprends pas. Excusez-moi, je vous permets juste... Parce que je comprends pas l'histoire du jus de fruits.
Enfin,
c'est
quoi, ça veut dire quoi
Jus de fruits, usufruit, est-ce qu'on peut dire qu'un langage volontairement abscons, c'est aussi une manière de protéger la profession? Les Inconnus qui ont fait ce film de satire bien connu, trois frères, évidemment, penchent pour cette hypothèse.
Oui, alors c'est clair que le langage et les formules perturbent complètement, surtout qu'en général, les personnes, effectivement, au moment des ouvertures de ce testament, n'ont pas forcément tous leurs esprits bien en place. Il faut savoir que la grande défense des notaires, et là il faut quand même le dire, c'est de ne pas être pris en otage par des héritiers qui seraient évidemment abusifs. Donc en fait, comme les recherches d'héritiers, surtout dans un monde social où la variété des droits de succession peut être complexe, fait que c'est une façon aussi de protéger des héritiers qui pourraient être absents lors de ces grandes cérémonies.
Enfin, le Conseil d'État, en 1803, recommandait de rédiger les engagements avec clarté. Moi, il y a une formule que j'adore, c'est « on va payer au mar l'euro ». Donc, au prorata des droits de chacun dans l'ordre, on va payer au mar l'euro. C'est-à-dire qu'on utilise encore un vocabulaire qui désigne des monnaies d'autrefois.
Médiéval, même le mar d'argent, c'est carrément médiéval. Ouais. Donc, effectivement, là, il y a une sorte d'utilisation de l'éternité qui est aussi celle de la transmission.
Ah, l'éternité de la dame aux camélias, Marguerite Gautier, est-ce qu'elle tient à la constitution de son personnage par la littérature ou à son inventaire après décès?
Quand on ouvre cet inventaire après décès, on a l'impression d'être dans le roman de Dumas fils. C'est un acte qui a une vingtaine de pages et où on voit les bijoux, le mobilier. On dit que Marguerite Gautier, la dame aux camélias, est morte dans la misère. Mais en réalité, quand on lit cela, elle n'était pas encore dans le besoin et son environnement était superbe. Donc déjà, dans l'écurie, un cheval hors d'âge, pur sang, sous poil bébrun et un poney entier âgé de 5 ans, sous poil gris. Et alors, dans un coffre de bois de rose, vous aviez un châle en cachemire, long, fond noir et à palme, une écharpe en tulle blanc, une autre écharpe algérienne, une autre dite de Smyrne, un camail en satin violet garni de dentelle noire, un châle crêpe de Chine brodé en soie, une écharpe en dentelle, une ombrelle, une pèlerine en tulle et une robe en mousseline brodée garnie de Valenciennes.
Dans la rue des Trois Mages, un vieux marchand de fromage était mort sans enfant. Ses voisins, ses voisines, ses cousins, ses cousines, au fond d'une cuisine, se partageaient gaiement la table de son père, le fauteuil de sa mère, la montre de son frère, la pendule à coucou, une paire de bretelles, une bouteille d'eau de vitelle et une coiffe en dentelle qu'il se mettait au cou. Il arriva de Chine sur une vieille machine, un homme couramment les Chines, qui leur dit: messieurs, ne dites pas qui est-ce, je suis le cousin de la nièce de l'homme qu'on met en pièce, et c'est pour ça que je veux.
Hein? Deux éventuels, etc.
La table de son père, le fauteuil de sa mère, la montre de son frère, la pendule à coucou, la vieille paire de bretelles, la bouteille d'eau de vitelle et la coiffe en dentelle qu'il se mettait au cou. Ce fut le diable à quatre, les hommes voulurent se battre, les femmes devant l'âtre, appelez police secours, commencement d'incendie et presque épidémie, collective folie, et tout ça pour... Une pendule en dentelle, une coiffe d'eau de vitelle, un fauteuil à bretelles, une table à coucou. Histoire lamentable de fauteuils et de tables qu'une voisine détestable vint raconter chez nous.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter. Une forte détestable vint raconter
chez nous. Et vous savez, tous les jours, recommandait Cabu un Charles Trenet. Notre invité aujourd'hui, Yann Potin, le témoin de ce vendredi. On parle des notaires, profession protégée, comme disait M. Montebourg. On va maintenant, avec vous qui êtes archiviste paléographe, voir comment les archives des notaires sont protégées. Parce que quand elles demeuraient dans les études, les papiers étant choses consomptibles, vocabulaire des notaires, l'eau, le feu, les insectes, les animaux nuisibles, etc., il pouvait y avoir des inquiétudes à nourrir. 1928... On a une loi importante, l'obligation de dépôt aux archives nationales et aux archives départementales d'une grande partie des fonds notariaux. J'imagine que la profession a hurlé.
Alors en fait, non seulement elle a hurlé, mais ça faisait déjà 70 ans qu'elle hurlait, puisque le projet remontait à peu près au milieu du 19e siècle, et les notaires avaient beaucoup de mal à accepter l'idée qu'il y aurait en fait une sorte de moins-value en perdant leur mémoire documentaire qui était celle de leur étude.
Quand la loi est passée, un de vos prédécesseurs, un type assez étonnant aux archives, Ernest Koyek, il avait d'ailleurs pris sa retraite.
Oui, tout à fait.
Il a mis sa plus belle blouse. Les archivistes avaient des blouses à l'époque.
Les archivistes avaient des blouses.
Et il est allé d'étude en étude à Paris ?
D'étude en étude, il y en avait 140, ce qui en fait beaucoup. À l'époque, c'était encore le département de la Seine, donc il y avait toute la couronne de la petite banlieue. Et effectivement, il a véritablement fait un travail archéologique. On a des photos absolument folkloriques, où on le voit pas seulement en blouse, mais avec des masques de fortune. Et il a littéralement exhumé des actes qui, bien souvent, étaient dans des positions inférieures de cave ou de grenier, et il a véritablement mis à profit un travail d'exhumation qui a permis très vite de créer un service nouveau qui a repris d'ailleurs le vocabulaire des notaires. Il s'est appelé minutier central, hein, ce qui les rassurait d'une certaine façon. Et d'une certaine façon, il a été d'abord conçu comme un dépôt de la Chambre des notaires de Paris pour Paris, et puis comme pour un dépôt dans chaque département des chambres notariales locales.
On va parler des possibilités courtes. La création de ces minutiers dans les départements et, pour les archives nationales, le minutier central. Juste quand même, un argument que mettait en avant Ernest Koyek chez les notaires toujours méfiants. Ce ne sont que des archives semi-publiques.
Et oui, parce que, en fait, la loi obligeait le dépôt des actes, mais les actes originaux, c'est-à-dire les minutes, c'est ce mot qui revient partout, c'est-à-dire en fait, on pourrait dire de manière extrêmement simple, le brouillon des actes, ou plutôt le brouillon que le notaire garde par-devers lui, par ordre chronologique, et qui est en fait le véritable original. Pour le reste, c'est-à-dire ces dossiers de travail, ces dossiers clients, qui sont... beaucoup plus riche, puisqu'il y a les correspondances avec ne serait-ce que les héritiers ou les contestations, etc., la loi de 28 ne les considère pas comme des archives publiques, elle les considère comme des papiers de fonction liés à l'honorariat des notaires, et ces papiers, la plupart du temps, ne sont pas récupérés. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que, heureusement, les études, il y a des ruptures de transmission, donc on a pu récupérer parfois ces mélanges qui sont beaucoup plus riches, mais beaucoup plus confus. Donc,
pour nos amis généalogistes, il faut qu'ils sachent, mais ils le savent infiniment mieux que nous, que les listes nominatives, elles sont toujours...
Mais oui,
celles qui facilitent les recherches chez les notaires.
Tout à fait. Ils gardent la clé, pourrait-on dire, et la loi de 28, c'est comme le dépôt des valises sans les clés. Alors on peut toujours, évidemment, forcer la valise.
Sur le parvis de la maison de la radio, pendant que je vous attendais, une avocate spécialisée dans les questions d'art me raconte une histoire formidable. Un étudiant consulte un recueil d'actes notariés d'une étude de Savoie datée du XVIIe siècle voit que la reliure est épaisse, c'est en velin, et que l'épaisseur, elle est double ou triple. Et il extrait de la reliure une bulle pontificale du Moyen-Âge, qui, paraît-il, n'était pas connue. À qui appartient la bulle? Vous pensez bien que le notaire descendant de ses prédécesseurs dans cette charge de Savoie dit « c'est à moi la bulle, c'est la reliure, c'est à moi, c'est des archives semi-privées, la reliure c'est à moi ».
C'est pas tout à fait faux, en effet, puisque d'abord, en fait, précisément, les bulles pontificales, qui sont des actes notariés tout aussi comme les autres, l'original, c'est bien ce qui reste dans les registres du pape, qui, eux, sont toujours au Vatican. Alors, si ça a mal été enregistré, bah, peut-être que la bulle n'est pas connue. Mais l'expédition n'est en fait qu'une copie authentique, en quelque sorte, de l'original de l'acte. Donc, quelque part, comme en plus ces actes étaient en parchemin et pouvaient servir de belles reliures résistantes, effectivement, ont été transformés en déchets de protection.
Nos saints patrons pour l'histoire française, Marc Bloch, Lucien Febvre, ils avaient déjà forgé leur méthode de travail, développé leur centre d'intérêt avant cette loi de 1928, mais pour eux-mêmes à la fin de leur carrière ou pour leurs descendants, les minutiers offrent des opportunités, des perspectives de recherche inouïes.
Oui, parce qu'on change véritablement d'échelle par rapport à la perception de la société. Le grand projet incarné par les annales d'histoire économique et sociale, c'est véritablement de révolutionner l'histoire en faisant l'histoire de la société et des rapports économiques, et non pas celle simplement des grands hommes ou des grandes structures. Donc effectivement, l'inaccessibilité jusqu'au début du XXe siècle de ces documents, finalement, faisait loucher, en quelque sorte, sur le tissu social. Donc la concordance des temps entre 1928 et la fondation de la revue est un hasard, est une coïncidence, mais elle a sa signification.
Des exemples de perspectives ouvertes dans le domaine social, religieux, que sais-je ?
Par centaines. On pourrait dire, à commencer par une évaluation au plus près de la propriété rurale sous l'Ancien Régime, par exemple, et le fait qu'il y avait peut-être des classes sociales à l'intérieur de la société des trois ordres. Ça, c'est des grandes questions de structure. Mais sinon, sur le plan qualitatif, le développement, pour ne pas dire l'invention, d'une véritable nouvelle histoire, à commencer par celle des intérieurs, celle de l'intime. Il y a eu beaucoup d'études autour de la culture matérielle à partir des années 30 et puis surtout dans les années 60.
L'inventaire après décès permet de savoir beaucoup.
Voilà, l'inventaire après décès, c'est une photographie avant l'invention de la photographie d'un intérieur. On entendait la Dame aux Camélias, d'un intérieur, mais aussi d'objets qui, pour la plupart du temps, ne sont pas conservés ou n'ont jamais été véritablement connus. Donc, en fait, on découvre avec cette saisie, là aussi mot-clé par essence du notariat, cette saisie du réel que l'acte notarié oblige, une possibilité d'étude de la société, mais aussi des attitudes face à la mort, par exemple. Donc il n'y aurait pas eu de Michel Vauvel, en quelque sorte, ou d'études sur...
Michel Vauvel, c'est une étude sur la manière chrétienne, encore chrétienne, moins chrétienne, d'aborder la mort au XVIIIe siècle en Provence.
Sans les testaments.
Les femmes, on s'aperçoit que les femmes ont beaucoup plus accès au notariat qu'on ne l'imagine.
Tout à fait, puisque souvent d'abord elles survivent, donc ne serait-ce qu'en tant que veuve ou en tant qu'apporteuse de dot, elles apparaissent dans les actes notariés, là où bien sûr elles n'apparaissent pas dans les archives plus communes.
Et les secrets de famille, il faut que vous nous en disiez un mot, Yann Potin. Voici le cas, on est chez des Canadiens français. Très intéressant, les études notariales, pour observer les contrats de départ, d'ailleurs.
Tout à fait.
Vers le Québec. Cette femme veut être enterrée nue et sans prière. Elle a sans doute un poids sur la conscience.
Au notaire Jean Lebel, enterrez-moi sans cercueil, nue et sans prière. Le visage tourné vers le sol, face première contre le monde. Tous mes avoirs seront partagés entre les jumeaux, Jeanne et Simon Marouane. L'argent leur sera légué équitablement et mes meubles distribués selon leurs désirs et accords. Jeanne, le notaire Lebel te remettra une enveloppe. Cette enveloppe est destinée à votre père. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Simon, le notaire te remettra une enveloppe. Cette enveloppe est destinée à votre frère. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Lorsque ces enveloppes auront été remises à leur destinataire, une lettre vous sera donnée. Le silence sera brisé, une promesse tenue, et une pierre pourra être posée sur ma tombe et mon nom sur la pierre, gravée au soleil.
Dans un coffre-fort de notaire, il y a plein de secrets. Il n'y a pas d'argent, mais il y a des secrets.
En effet, le secret des consciences, s'il est accessible, et il ne l'est en général pas, et heureusement peut-être, s'il affleure quelque part, c'est bien dans ses dernières volontés, ou dans ces choses que, précisément, les contrats entre particuliers dissimulent ou protègent grâce à cette garde jalouse des actes qui a longtemps été strictement personnels.
Une question sur les délais d'accessibilité que se posent peut-être pas mal de nos auditeurs. En 1928, au moment du dépôt, c'était 125 ans. Oui. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins.
75. Depuis, en fait, la loi du 15 juillet 2008, qui a révisé de nombreux délais de communication, et notamment pour les archives publiques, et du fait de la pression historiographique des historiens ou des généalogistes qui veulent avoir accès à ces actes, aujourd'hui, on peut dire que, même à partir de l'année prochaine, les actes de l'année 1940, par exemple, seront ouverts. Alors, il faut encore qu'il soit déjà arrivé au dépôt, puisque le délai de 125 ans avait permis aux notaires de retenir les actes du XXe siècle, puisque de toute façon, ils n'étaient pas accessibles. Donc pourquoi les déposer ?
Je voudrais qu'on termine avec une histoire fascinante. On se souvient peut-être qu'un historien important, Alain Corbin, était parti à la recherche d'un homme qu'il avait choisi. Inconnu, un pauvre, marginal, d'un tout petit village qu'il ne connaissait pas. Nous sommes au XIXe siècle. Au bord d'une forêt de l'Orne que lui-même Corbin connaissait à peine. Et il avait voulu prouver, entre autres, que sans archives notariales, histoire d'un pauvre qui n'apparaissait pas dans les archives notariales, on pouvait quand même restituer l'histoire d'un homme sans singularité.
Oui, c'était un projet absolument michelétien, d'une certaine façon, de rechercher l'homme sans voix, l'homme sans trace du XIXe siècle et l'atome de la société. Or, ce qui prouve par contrario, d'une certaine façon, par l'absurde, que le maillage des archives notariales est absolu, Pinago est apparu après l'apparition du livre dans les archives. Alors,
pourquoi Corbin ne l'a-t-il pas trouvé ?
Pour la raison que nous avons dite il y a un instant, c'est le problème d'accessibilité. Si on tape Pinago dans les inventaires, on ne trouvera rien. Et il a fallu l'acharnement d'un groupe d'historiens qui, par ailleurs, connaissaient très bien ces archives d'historiens de la Normandie, qui connaissaient bien les archives locales des notaires, pour dégoter un certain nombre d'actes dans lesquels Pinago non seulement apparaissait, mais il était lui-même vendeur, donc il n'était pas aussi peut-être pauvre que ça, et surtout, y compris un inventaire après décès. Ce qui, a contrario, prouve de manière un petit peu désinvolte par rapport au grand texte qui est le monde retrouvé de Louis-François Pinago, que au fond, l'archive notariale est susceptible de faire surgir à peu près tous les anonymes l'histoire et de donner un projet, de donner corps au projet d'histoire totale que les historiens depuis plus d'un siècle désirer être les porteurs. Il faut dire que sans l'activité des archivistes, et notamment de cette collecte, puisque les héritiers de Coyec, ils existent aujourd'hui, et effectivement, il faut aller les chercher, les minutes notariales, et mes collègues des archives nationales ont repris depuis quelques années la collecte.
Donc vous êtes en train de dire, c'est peut-être la leçon de cette émission, Yann Potin, que dans ce domaine-là, en tout cas, les notaires ne sont pas irremplaçables pour la production, peut-être, mais pour la recherche, la communication et la conservation, peut-être pas. Ils peuvent connaître des substituts, les archivistes dont vous êtes. Merci à vous pour cette émission sur le notariat, lieu de mémoire dans la grande somme de Pierre Nora. Le notaire est l'objet d'un article. L'émission était préparée par Ilinka Negulesco, avec à la réalisation Jacques Sigal et à la technique Tristan Gratalon.